Le journal vous est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Comment gérer la crise migratoire provoquée par la situation catastrophique au Venezuela? 12 pays d'Amérique latine sont réunis à Quito pour trouver des solutions communes. L'Argentine annonce un plan d'austérité pour stabiliser son économie. Nous avons tout pour nous en sortir, affirme le président Mauricio Macri, qui cherche à enrayer l'effondrement du peso. En France, la rentrée des classes est synonyme de gros stress pour les enseignants stagiaires. Sont-ils suffisamment préparés? C'est le dossier de ce journal proposé par notre spécialiste éducation, Hakim Kasmi. Et puis, comment tirer les leçons du Lévothyrox? La ministre de la Santé promet une information plus accessible, claire et réactive sur les médicaments. Ça va dans le bon sens, mais ça n'est pas suffisant, estime l'association Vivre sans thyroïde. Mais nous allons d'abord à Rio de Janeiro, où c'est la consternation. Le plus ancien musée du Brésil est parti en fumée hier, et avec lui, un patrimoine unique. Le musée national de Rio, créé en 1818 et installé dans l'ancien palais impérial de Saint-Christophe, est considéré comme le plus grand musée d'histoire naturelle et anthropologique d'Amérique latine. Particulièrement réputé pour la richesse de son département de paléontologie, avec plus de 26 000 fossiles, il avait également une collection exceptionnelle de poissons, amphibiens, mollusques, reptiles et papillons. Et sa bibliothèque comptait plus de 530 000 titres. La cause de l'incendie n'est pas encore connue, mais pour les spécialistes qui se relaient au micro des médias brésiliens, le palais impérial a payé les conséquences de la crise de l'état de Rio de Janeiro. Avec un budget très réduit ces dernières années, le musée n'avait même pas de système de détection des incendies. Le reportage d'Anne Vigna à Rio.
Indignation, tristesse, colère, voilà ce que sentaient ce matin à Rio de Janeiro les étudiants et professeurs qui se sont réunis spontanément devant les grilles du musée national. Ricardo est professeur d'histoire à l'Université d'État de Rio de Janeiro et plusieurs de ses recherches étaient conservées au musée.
On est venu ici pour protester contre cet incendie au musée national qui est la conséquence directe des coupes budgétaires qui ont été faites dans le domaine de la science, la technologie et dans les archives du patrimoine. Il s'agit d'un projet de démontage de la culture qui a eu lieu ces dernières années. Et la conséquence, malheureusement, c'est cette tragédie.
Le musée national était le plus important d'Amérique latine. Il contenait des collections uniques au monde en paléontologie et anthropologie, comme l'explique un autre professeur.
Je suis professeur à l'Université pontificale de Rio et je suis venu montrer ma solidarité à tous mes collègues qui travaillaient ici pour cette perte absurde pour la science. En plus de la perte culturelle, le pire est peut-être la perte scientifique, car il y avait beaucoup de matériel dans ce musée qui est irréparable. C'est près de 200 ans de connaissances scientifiques qui viennent d'être perdues.
Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. L'enquête est en cours, mais les défaillances du système électrique avaient déjà été dénoncées par le conservateur du musée en juin dernier.
Anne Vigna, correspondante de France Culture au Brésil. Plus le Venezuela s'enfonce dans la crise, plus ses habitants cherchent des solutions à l'extérieur du pays. Et c'est tout le continent qui s'inquiète. À l'initiative de l'Équateur, les représentants de 12 pays latino-américains sont réunis aujourd'hui à Quito pour évoquer la crise migratoire sans précédent à laquelle est confrontée la région. Ils cherchent des solutions communes pour répondre à l'exode de centaines de milliers de Vénézuéliens. Mais cette réunion vient de débuter en l'absence du Venezuela qui nie la réalité de la crise migratoire. Eric Sanson suit pour nous cette réunion à Quito.
Alors que l'Équateur vit une crise économique de plus en plus sévère et que le gouvernement a par exemple récemment relevé le prix de l'essence super, le pays n'a que des moyens limités pour mitiger les effets de la crise migratoire vénézuélienne. Le vice-ministre équatorien de mobilité humaine, Santiago Chavez, a donc réitéré la nécessité de trouver des solutions articulées avec les pays de la région. Cette position est partagée par tous les participants et notamment la Colombie qui demande la création d'un fonds international à créer sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Même si des pays comme l'Équateur et le Pérou ont récemment durci leur politique migratoire et que le Brésil a envoyé l'armée à sa frontière nord après des chocs entre migrants et populations locales, la tendance à Quito est a priori de garantir un accueil digne des migrants et le respect de leurs droits. Alors que l'Équateur devrait recevoir cette année quelque 300 000 migrants vénézuéliens, le pays souhaite développer des mécanismes pour que ces derniers puissent créer leurs propres entreprises. Le Pérou souhaite également la création d'un mécanisme d'homologation des diplômes universitaires. Cela permettrait à de nombreux migrants vénézuéliens, parfois surdiplômés, de pouvoir travailler plus facilement dans leur spécialité au lieu de vendre de la nourriture dans la rue.
L'Argentine ne subit pas les mêmes difficultés que le Venezuela, mais elle est tout de même ébranlée par une crise économique qui se traduit par une dévaluation record et une inflation qui semble incontrôlable. Le président Macri vient donc d'annoncer plusieurs mesures pour tenter de sortir de cette spirale. Au menu des prochains mois, coupes budgétaires et impôts à l'exportation, en particulier pour le secteur agricole. Les Argentins craignent un retour à 2001, l'une des plus terribles crises économiques et sociales de leur histoire. Les explications de Caroline Vic.
Lors d'une allocution télévisée enregistrée, Mauricio Macri a défendu sa gestion et a attribué les problèmes actuels à la situation financière internationale, notamment aux problèmes économiques en Turquie et à la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis. La faute aussi, selon lui, au gouvernement des Kirchner et aux affaires de corruption. Le président a annoncé que l'État devait dépenser moins et réduire son déficit fiscal. Pour ce faire, il a annoncé des coupes budgétaires en matière notamment d'investissement public de 0,7% du PIB et de subventions au transport et aux services de 0,5%. Les entrées d'argent se feront grâce à un impôt transitoire aux exportations jusqu'en 2020 de 4 pesos pour chaque dollar exporté, en particulier pour le secteur agricole et la filière du soja. Des mesures d'austérité qui se rajoutent à la préoccupation de la dévaluation. Jeudi dernier, les Argentins ont connu une dévaluation de 15% en une journée avec un dollar qui a atteint près de 40 pesos. La semaine dernière, le peso a chuté de 20% et de 35% en août. Une désagréable et inquiétante sensation de déjà-vu pour les Argentins qui déjà remplissent leur caddie au supermarché et tentent de vendre tous leurs pesos pour les changer en dollars en vue d'une éventuelle forte crise dans les mois à venir.
Caroline Vic à Buenos Aires. Malgré une réduction des départs de migrants vers l'Europe, la Méditerranée est devenue plus meurtrière. C'est ce que met en évidence un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Sur les 7 premiers mois de l'année, le nombre d'arrivées en Europe par la Grèce, l'Espagne et l'Italie a baissé de 41%. Mais pour 18 personnes ayant franchi la mer Méditerranée, une y a laissé la vie. Aujourd'hui, note le HCR, la question n'est plus de savoir si l'Europe peut gérer le chiffre des arrivées, mais plutôt de voir si elle peut trouver l'humanité pour sauver des vies. Pour la France, l'une des réponses aux défis migratoires se trouve dans l'aide au développement. Dès le début de son mandat, Emmanuel Macron s'était engagé à l'augmenter et dans le budget 2019, elle va même être multipliée par 4, Éric Bigala.
Emmanuel Macron l'avait annoncé la semaine dernière devant la conférence des ambassadeurs. L'enveloppe de l'aide directe bilatérale donnée directement par la France sera très sérieusement abondée pour 2019, plus 1 milliard d'euros supplémentaires. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est venu au siège de l'Agence française de développement, l'AFD, pour y détailler les objectifs de cette nouvelle manne.
Nous avons fait le choix de la concentration vers les pays pauvres et fragiles. Et du coup, en augmentant considérablement la part de notre engagement sous forme de dons, en proportion par rapport aux prêts. Il s'agit ni plus ni moins que d'un quadruplement par rapport au montant accordé en 2018, qui était de 300 millions d'euros, et on augmente ce montant de 1 milliard. S'agissant des secteurs prioritaires, jusqu'à la moitié de l'enveloppe, c'est-à-dire 500 millions d'euros, pourraient être alloués à l'éducation, à la jeunesse, à l'égalité femmes-hommes, à la santé et à la nutrition dans une logique de résorption des inégalités. Le climat et la biodiversité, d'une part, le traitement des crises et des fragilités, d'autre part, sont les deux autres grandes priorités.
Une aide au financement de projets très spécifiques, donc, et qui bénéficieront en priorité aux pays africains, explique Rémy Rioux. Il est le directeur général de l'Agence française de développement qui va donc gérer cette enveloppe.
Cet argent, on ne va pas le mettre dans les pays émergents, c'est du don, encore une fois, et on va le concentrer dans 19 pays prioritaires. 18 d'entre eux sont en Afrique. Le 19e, c'est Haïti. Et bien sûr, dans ces 18 pays africains, on va avoir un accent très particulier sur les pays du G5 Sahel, dans lequel on veut redevenir très très actif sur les sujets d'éducation, sur les sujets de santé, sur les sujets climatiques.
L'enveloppe 2019 est abondée d'un milliard d'euros. Celle des trois années suivantes risque de l'être encore davantage si les promesses sont tenues. En tout, sur le quinquennat, Emmanuel Macron a promis de majorer l'aide au développement de plus de 6 milliards d'euros.
Éric Biegala. Pour avoir enquêté sur un massacre de musulmans rohingyas par l'armée birmane, ils sont condamnés à 7 ans de prison. Deux reporters birmans de l'agence Reuters ont été condamnés pour avoir porté atteinte au secret d'État en s'étant procuré, selon l'accusation, des documents relatifs aux opérations des forces de sécurité birmanes dans l'État Rakhine. Reporters sans frontières a immédiatement réagi à l'annonce de cette condamnation, dénonçant une instruction fantoche en Birmanie, pays classé 137e sur 180 dans le classement mondial du RSS. En matière de liberté de la presse. La chef de l'ONU pour les droits de l'homme, Michelle Bachelet, demande la libération immédiate des deux journalistes birmans, tout comme Londres et Paris. Le suspense devrait prendre fin demain. On attend la nomination du successeur de Nicolas Hulot à la tête du ministère de la Transition écologique, mais également la décision présidentielle concernant le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. La réforme est censée entrer en vigueur en janvier. Le ministre de l'Action et des Comptes publics assure que tout sera prêt, mais le chef de l'État a semé le doute la semaine dernière. Depuis, les pressions augmentent d'un côté comme de l'autre. C'est ainsi que l'association SDDS, qui regroupe une trentaine d'entreprises éditrices de logiciels de paye, déplore aujourd'hui les hésitations du gouvernement sur cette réforme. Un nouveau report, explique-t-elle, provoquerait une véritable crise de confiance, 2 années de travail perdues et des investissements qui mettraient en danger certaines petites entreprises mobilisées. Il n'y a en tout cas aucune raison technique, tient à préciser Isabelle Van Kouberge, présidente de l'association SDDS.
Ce second report qui n'est absolument pas réclamé par les éditeurs de logiciels parce qu'il ne repose pas sur des lacunes techniques que nous aurions remarquées et que nous aurions été incapables de résoudre entre-temps. Oui, ce second report, ou cette annulation encore pire, serait un mauvais coup. La réforme du prélèvement à la source nous avait été présentée depuis 2 ans comme étant d'une sensibilité et d'une importance telle qu'on nous étions même autorisés et encouragés à automatiser un petit peu plus tard certaines autres réformes pour que celle-ci soit d'excellente qualité au moment du passage en réel en janvier 2019. Donc discuter d'un report, voire d'une annulation, c'est pour nous une énorme mauvaise surprise. Comment arrêter une stratégie commerciale? Comment accepter d'investir en recherche et développement, en contacts commerciaux, en accompagnement des clients, si de toute façon nous ne pouvons même plus nous fier à des lois et à des textes qui ont été publiés? C'est quoi la véritable valeur juridique d'une loi publiée ou de toutes ces consignes d'application que nous avons reçues si à la dernière minute, un dirigeant politique peut dire j'arrête tout, des bons de commande qui ont été signés pour rien, les contrats qui ont été signés pour rien. Et là, je peux vous assurer que les clients n'accepteront pas, vraiment pas. Enfin, ils sortiront d'une déception telle quant aux dépenses faites pour rien, l'énergie investie faite pour rien et les risques pris faits pour rien, que nous ne pourrons pas porter, traduire en réel des innovations que le législateur souhaite pourtant pour pouvoir faciliter la vie des entreprises.
Isabelle Van Kouberge répondait à Annabelle Grelier. Autre dossier gouvernemental sur lequel planche le ministre de l'économie, comment amener les banques à modérer le montant des frais bancaires qu'elles prélèvent sur leurs clients modestes. Ces frais peuvent aller jusqu'à 400, 500 et même 600 euros, souligne Bruno Le Maire, des montants qu'il juge inacceptables. Le ministre, qui rencontre les représentants des grands établissements ce soir, propose notamment un plafonnement à 200 euros par an pour les personnes les plus fragiles. Alors Jean-Marc Chardon a-t-il des chances de se faire entendre ?
Alors pour l'heure, ce sont des engagements qu'il attend. Il les attend en vue de les formaliser dans le projet de loi Pacte. Mais ça ne veut pas dire qu'une nouvelle réglementation plus favorable va voir le jour très rapidement. Ça peut prendre en tout cas du temps. Alors ce qui est en jeu, ce sont les frais bancaires qui peuvent être considérables en cas d'incident de paiement, de découvert, au point de fragiliser davantage des particuliers dont les comptes sont déjà peu alimentés. Le sujet, il est devenu fort sensible après la publication d'une enquête de l'UNAF. Les associations familiales et 60 millions de consommateurs lorsqu'ils ont révélé qu'un client en difficulté sur 5 se voyait prélever par sa banque plus de 500 euros à l'année. Or, on estime, ce sont les chiffres de l'Observatoire de l'inclusion bancaire, à plus de 3,5 millions les clients bancaires en situation de fragilité aujourd'hui. Ça signifie que le risque est élevé pour eux et qu'il peut s'aggraver encore par le fait que ces frais de découvert s'enchaînent avec d'autres, de rejets, de factures notamment, d'où cette idée d'un plafonnement de frais bancaires à hauteur de 200 euros. Alors la difficulté étant de parvenir à le faire accepter des banques, lesquelles, d'après l'enquête des associations, en tirent une bonne partie de leurs revenus, plus de 6,5 milliards d'euros. Les banques, si elles conviennent donc d'un plafonnement, n'auront-elles pas tendance à chercher des compensations ailleurs, auprès d'une autre partie de la clientèle? C'est une option, en tout cas, qui n'est pas exclue. En tout cas, du côté du ministre de l'économie, eh bien, on estime, on souhaite élargir à tous les clients le projet d'un système d'alerte et de prévention afin que d'autres catégories ne se trouvent pas à leur tour exposées à une montée effrénée des frais bancaires.
Jean-Marc Chardon. Petits écrans ont rempli leur cartable ce matin et repris le chemin de l'école, du collège ou du lycée avec souvent un peu d'appréhension en attendant de connaître la composition de sa classe et les noms des professeurs. Un sentiment que partagent beaucoup d'élèves mais aussi beaucoup de professeurs stagiaires. Appréhension d'autant plus importante qu'ils se retrouvent devant les élèves pendant 3 semaines sans avoir eu la moindre heure de formation. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
Vous avez eu l'occasion de le constater en assistant à une réunion d'information organisée par la CGT Éducation de Seine-Saint-Denis.
Ils sont une dizaine de professeurs stagiaires au dos de la table à écouter avec attention les conseils de leurs aînés. Des conseils bienvenus, car même s'ils seront formés cette année dans l'école supérieure du professorat de Livry-Gargan, l'ESPE, ces futurs enseignants devront, eh bien, donner cours dès la rentrée, dès aujourd'hui, pendant 3 semaines sans avoir eu la moindre heure de formation. Un exercice compliqué, même s'ils se sont préparés tant bien que mal cet été, comme Fadila, qui aura des maternelles.
Depuis mon concours à maintenant, c'est-à-dire les 2 mois de vacances, je les ai passés en stress, en panique, en cherchant sur Internet des choses qui puissent m'aider, des tuyaux, en regardant sur le BO, qui est le bulletin officiel de l'éducation nationale. Et même avec tout ça, ben, j'avais l'impression de rien savoir et de pas être encore prête pour lundi.
Une situation qu'a bien connue Sylvain l'année dernière, quand il était stagiaire avec une classe de CE2. Pendant la formation, il devait à la fois suivre une semaine de formation à l'ESPE, l'école supérieure du professorat, et l'autre semaine, être en classe devant élèves, tout en devant préparer son diplôme pour devenir enseignant.
On ne sait même pas ce qu'il faut vraiment travailler, en fait. On fait des productions, mais on ne sait pas du tout si c'est bien ou pas. On n'a aucun guide. Donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment qu'on navigue complètement dans le brouillard, sans aucune référence, et qu'on se sent absolument dépassé par la responsabilité. On s'estime pas préparé. Donc, on prépare des leçons, mais on ne sait pas si elles sont bien. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Souvent, elles ne sont pas bien, puisqu'on n'a pas l'expérience, on n'a pas appris. Donc, voilà. Qu'en plus, on arrive dans des classes qui ont très peu de matériel, parce qu'on est en Seine-Saint-Denis, et qu'à cause de la territorialisation, bah, quand les communes sont pauvres, il y a peu de matériel, peu de manuels. Donc, on est encore moins aidé par ça. Non, c'est vraiment ça qui est dur.
Face à ce constat, le gouvernement prévoit de revoir la formation des enseignants en vue de la refonte de la formation initiale. Les discussions doivent commencer à la fin du mois. On semble se diriger vers un allègement du temps passé devant élèves pour les stagiaires. Véronique Ezol, déléguée départementale de la CGT Éducation et professeure en primaire à Aubervilliers.
Le concours doit être passé au niveau de la licence avec 2 années de formation. La première année en stage d'observation, la deuxième année avec des stages de mise en responsabilité devant les élèves, et ceci payé à taux plein. Parce que là, ce que risque de proposer le ministère pour la rentrée prochaine, c'est effectivement un retour au concours à la licence, mais avec une année de formation payée 400 ou 500 euros, ce qui est lamentable.
Avec la crise des vocations pour devenir enseignant, notamment dans des matières comme les mathématiques ou le français, il y a donc urgence, d'autant que la Seine-Saint-Denis est le département qui a le plus de professeurs contractuels et celui qui cumule le plus d'enseignants absents non remplacés. Selon la FCPE 93, un élève scolarisé dans le département du CP à la terminale perdrait pratiquement 2 années d'enseignement du fait des professeurs non remplacés.
Merci Hakim Kasmi. Agnès Buzyn promet une information plus accessible, plus claire et plus réactive sur les médicaments. La ministre de la Santé répond ainsi au rapport qui vient de lui être remis sur la crise sanitaire liée au Lévothyrox, médicament dont le changement de formule a été à l'origine de forts effets secondaires sur des milliers de patients ayant des problèmes de thyroïde. Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir Aurélie.
Ce rapport mise beaucoup sur une meilleure communication. Est-ce que ça répond aux attentes des patients?
En partie, disent les associations. À propos de clarté, il y a de gros efforts à faire, ce que veut justement la ministre, car on s'y perd entre les sites d'information sur le médicament, santé.fr, médicaments.gouv.fr et bien sûr le site de l'ANSM, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament. Site d'ailleurs trop fouillis, dénonce Béate Barthès qui est à l'origine de l'association Vivre sans thyroïde.
Ça c'est un gros problème aussi parce que le site de l'ANSM, il y a tout dessus, entre autres tous leurs communiqués, les notices des médicaments, tout et tout, mais c'est presque impossible à trouver. Un médecin lambda qui veut savoir quelles spécialités sont actuellement disponibles à prescrire à son patient s'il supporte mal le Lévothyrox, il va vraiment avoir du mal à trouver des fiches d'information qui pourtant existent et sont bien faites. Mais celle qui est la plus pertinente et qui contient vraiment toutes les informations officielles de l'ANSM depuis le tout début, c'est un point d'information qui est actualisé régulièrement, mais qui reste classé sous la date à laquelle il a été mis en ligne la première fois, c'est-à-dire le 2 mars 2017. Si on ne le sait pas, il est vraiment difficile à trouver.
Désormais, donc, la ministre veut un site unique. Elle promet aussi de mieux prendre en compte les effets secondaires signalés par les patients. Dans le cas du Lévothyrox, 32 000 signalements, c'est énorme, qui ont pourtant été considérés longtemps comme presque imaginaires, tant le laboratoire Merck a garanti que la nouvelle formule n'aurait aucun impact sur les malades. Or, c'est justement ce qui manque aux annonces du jour, disent certaines associations de patients. La vérité sur ce qui provoque autant de problèmes avec la nouvelle formule, qu'y a-t-il exactement dans le médicament? Et même la vérité sur ce ce qui a généré en 2017 le changement de formule. Béate Barthès.
On se pose plein de questions, quelles sont les vraies raisons? Est-ce que c'est vraiment la NSM qui a été totalement à l'origine de cette demande ou est-ce que c'est le maire qui leur a gentiment suggéré de demander ce changement de formule parce que ça les arrangeait? Parce qu'une chose qu'on a trouvée, par exemple, c'est que les brevets de l'ancienne formule expirent en mai l'année prochaine, alors que la nouvelle formule déposée en 2014 a un brevet jusqu'en 2034. Est-ce que c'est une coïncidence? Vous voyez?
Autant d'interrogations qui vont donc au-delà d'un problème de communication et transparence, qui sont déjà portées devant la justice, mais pour l'instant, ça ne soulage pas les malades.
Tara Schlegel, demain mardi, le ciel sera couvert au nord de la Seine et il pleuvra sur l'extrême nord du pays. Soleil sur la moitié sud, mais quelques averses sur les reliefs. Il fera entre 9 et 20 degrés le matin, les températures atteindront l'après-midi 19 à 26 sur la moitié nord, 25 à 32 plus au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.